Tout à fait, c'est une bonne question. Mais moi, j'ai un problème alors avec Verskaren, parce qu'alors, dans quel rôle tu mets Yari Verskaren?
Sur le banc.
Ouais, ouais, voilà.
Les ballons sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Comme d'habitude, c'est un bonheur de vous retrouver chaque semaine, chaque mardi soir, ici, dans le Clubhouse, pour pouvoir parler de football et toute l'actualité. Aujourd'hui, on va faire la part belle à un club qu'on nous a souvent réclamé dans les commentaires. On va parler du Sporting d'Anderlecht aujourd'hui. Alors, je vous vois, supporter du Standard, supporter de Bruges, de Charleroi. Ne vous inquiétez pas, il y aura également des moments dans l'émission qui seront affrétés à vos clubs préférés. Mais aujourd'hui, on a décidé de faire la part belle au RSCA, club le plus titré du Royaume. Et pour évidemment ce faire, il nous fallait un chroniqueur spécial. Je ne dirais pas aussi piquant que délicieux, parce que ça, c'est les habitués. On va dire spécial. Mehdi El Yassini, qui gère d'ailleurs un média Mauvecast, qui est un média hyper intéressant sur le Sporting d'Anderlecht. Mehdi, comment ça va?
Salut Sacha. Bah, très bien, écoute. Très content d'être là parmi vous et hâte de parler ballon.
Ouais, c'est un vrai plaisir. On a concocté un petit menu aux petits oignons, avec en plus de ça des gens qui ont déjà des, il y a déjà eu des petits contentieux là sur le passé. Il y a eu déjà des discussions. Je ne suis pas d'accord. Vous êtes dur avec Anderlecht. Voilà, 2-3 messages envoyés en DM sur Insta. Il est là pour justement ou la réconciliation ou alors le duel. Mon cher Quentin, comment ça va?
Ça va très bien. Toujours de manière objective. On parlera en bien ou en mal d'Anderlecht en fonction des sujets, des thèmes abordés. Donc ça avec plaisir.
Bon, ça va être génial. Et puis à ses côtés, mon bon vieux Samaritain Xavier. Comment ça va, mon Xavier?
Ouais, ça va pas mal aujourd'hui, franchement. Un peu fatigué, mais ça va.
Un peu fatigué. Le bébé, certainement.
C'est ça, les nuits, pas toujours
évident. C'est pas toujours facile, voilà. Pas toujours facile avec. La nuit. Ça va. Bon, on espère que maman a bien pris le relais. Puis c'est une famille italienne. Vous le savez, les Italiens, on est une grande famille, une grande communauté. C'est comme ça. Et finalement, on est tous là pour s'aider les uns les autres. Je suis sûr que tu es d'origine marocaine.
D'origine, oui.
Ah ben voilà, c'est certainement aussi la même chose chez les Marocains, effectivement. Allez, on démarre tout de suite, bien sûr, avec un premier débrief, tout de suite au calme, sur ce match et cette victoire du Sporting d'Anderlecht. Victoire étriquée face à Eupen. Une première période qu'on dirait de bon niveau, avant un relâchement évident en seconde période où ils se sont fait peur, en fait, les Pandas, Mehdi.
Ouais, tout à fait, c'était un match un peu soporifique, même première mi-temps d'un bon niveau, je suis pas forcément 100% d'accord. On va dire il y a eu un petit quart d'heure avec un peu de football, pas assez pour moi, mais les trois points sont le plus important et voilà, en espérant que le niveau de jeu va s'élever dans les prochaines semaines.
Ouais, c'est la question que j'allais justement vous poser à tous. Quentin, est-ce qu'on peut qualifier la prestation des Mauves comme satisfaisante?
Non, pas satisfaisante, suffisante. Ouais, je dirais plus suffisante, parce que comme Mehdi le disait, les trois points, c'est le plus important dans la course au titre. Mais satisfaisante, pas du tout. Parce que le niveau de jeu, quand on voit les 15 premières minutes, j'ai regardé, je vois le début du match, je me dis, waouh, là, ils vont mettre 5-0, qu'on voit déjà les trous dans la défense de Penn. La contre-attaque d'Anderlecht, il y a deux défenseurs de Penn au milieu du terrain. T'es 15e du championnat, tu joues comme ça chez le deuxième. Tactiquement, je sais pas ce que faisait Eupen à ce moment-là du match. Je me dis, mais ils vont dérouler. Après, ils enchaînent. Il y a une occasion de Dreyer encore. Je me dis, ils vont dérouler. Et après, ils sont endormis. Ils sont tombés dans leur propre jeu. Et ils ont eu très peur parce qu'il y a la barre de Renaud Aymon en début de deuxième mi-temps. Et il y a la tête de Davidson à la 88e, qui est proche d'être dedans aussi. Donc, ouais, c'est inquiétant. Et si Anderlecht joue comme ça dans les playoffs, ça sera pas 1-0.
Mais si tu remarques bien, même dans le premier quart d'heure, toutes nos actions, elles viennent de contre-attaque. Exactement. Tu vois, il y a pas d'action menée, créée de toute pièce. Tu vois, c'est vraiment Eupen qui sort un petit peu, qui sort mal, et Anderlecht qui contre-attaque. C'est un peu la force de cet Anderlecht-là. C'est un peu triste. Moi, j'avais ramené mon fils au stade ce match-là pour voir des goals. Donc, ce sera parti rapide, mais voilà.
Ouais, il y en a déjà vu un.
Il a sauté une fois, mais bon, voilà.
Voilà. Et ce que je perçois de ce qu'explique Quentin, Xavier, c'est que il y a peut-être, à un moment donné, dans le rythme, physiquement, peut-être une cassure ou un manque chez les Anderlechtois.
Non, je pense que les Anderlechtois, en fait, ils font juste le job, ça suffit. Comme souvent, ils gagnent juste un but d'écart. En fait, je pense que ce qui manque peut-être à Anderlecht, c'est, ils oublient de tuer le match, en fait. Eux, ils mènent 1-0, ça suffit, on essaye de gérer. Sauf que, en face d'eux, ici, Eupen, c'est une équipe qui joue pour sa survie et qui va se battre jusqu'au bout. Donc, si tu tues pas le match directement, c'est sûr et certain que tu vas te mettre en difficulté par après, toi. Parce qu'eux, ils vont jouer pour le tout. Un point, ça va peut-être faire la différence pour être en playoff 2 et pas en playoff 3. Et c'est ça, je pense, le peut-être problème qu'on a eu ici avec Anderlecht.
Alors, on vous a posé la question à vous, bien sûr, dans Parole de supporters. Pensez-vous le collectif du Sporting d'Anderlecht déjà à 100% de ses capacités? On a eu des réponses diverses et variées. Vraiment, c'était très particulier. Beaucoup de supporters n'étaient pas d'accord entre eux. Donc, il y a un vrai débat, en fait, autour de cette question. On peut prendre, par exemple, l'avis de Del Piero, donc Alex Delpix, qui nous dit « Je trouve qu'au milieu, les profils sont trop similaires, ce qui empêche un jeu fluide et rapide. Manque de qualité sur les flancs pour éliminer des joueurs en 1 contre 1. Jeu parfois trop statique. Le score est souvent débloqué sur des erreurs de l'adversaire. » Qu'est-ce qu'on pense de l'avis d'Alex Delpix?
Bon, je pense que c'est un peu dur quand même. Manque de qualité sur les flancs, c'est la force d'Anderlecht. Certes, pourtant, Thorgan Hazard et Dreyer, je pense pas qu'en Belgique, il y a beaucoup de clubs qui peuvent se vanter d'avoir deux éléments créatifs comme ça sur les flancs. Donc c'est un peu sévère quand même. Après, là où je le rejoins, c'est qu'il n'y a pas vraiment de jeu collectif. Je veux dire, il y a vers l'avant. C'est rare qu'on a des belles phases, etc., qui débouchent sur un goal. Là où, en fait, quand on parle de collectif, on peut mettre ça, ce mot en deux temps. Il y a une cohésion de groupe, ça, on est forcé de le constater. Anderlecht revient toujours au score. Il y a une grosse débauche d'énergie, il y a une grosse cohésion. Maintenant, on ne le voit pas encore concrètement sur l'aspect du jeu offensif, etc.
Alors, Purple Cat nous dit, les joueurs, il y a assez de qualité, mais c'est plus l'animation défensive. Le fait de savoir faire le gros dos. Alors moi, justement, j'en profite parce que on a eu un nouveau venu dans ce match face à Le Pen, mon cher Mehdi, Federico Gattoni, prêté jusqu'en fin de saison par le FC Séville. Mm-hmm. Quel bilan on peut faire de sa prestation? T'es déjà convaincu ou pas encore?
Convaincu, c'est un grand mot. Tu vois, il était un peu nerveux, je trouvais. Maintenant, il a des qualités, c'est un fait certain. Il vient de Séville. Allez, il arrive à Anderlecht. Tu viens pas de Séville comme ça en étant un manchot, comme on dit. Mm-hmm. Il a des qualités, c'est un fait certain. Maintenant, on voit qu'il est de passage, qu'il sera là que pour 6 mois. Vertonghen est bien installé. Voilà, ce sera un one shot, ouais, selon moi.
Et Vertonghen n'est pas donc, je dirais, prêt d'être sorti de l'équipe, de ce que je comprends.
Cette saison-là, en Gattoni, ça se trouve, c'est son dernier match. Hein. C'est décidé de Bast. Et Vertonghen ne se blesse pas ou prend pas une suspension. Gattoni, tu le reverras plus cette saison. Il a justement été... Ils l'ont, entre guillemets, ils ont bien fait de le prendre parce que Vertonghen est suspendu. Ils l'ont justement pris parce qu'ils n'avaient aucun backup pour ce poste-là. Donc on ne sait jamais ce qui peut arriver avec Vertonghen avec son âge. Donc un peu plus fragile ou autre au niveau des blessures. Mais cette saison, je ne pense pas que Gattoni jouera quelques minutes.
D'ailleurs, Riemer a été très clair. Hein, pendant ce mercato, il disait c'est très compliqué de trouver un défenseur central, sachant que nos deux titulaires sont indiscutables. Donc il faut arriver à convaincre un gars en lui disant, tu viendras peut-être que pour un match, 10 minutes, un quart d'heure, en fonction des circonstances. Mm-hmm. Donc voilà, c'est dans cette optique-là, c'est très, très compliqué.
Alors, on va poursuivre, bien sûr, avec vos réactions sur X. Alors, Antoine Seldryers nous dit, selon moi, le collectif n'est pas à 100%. Il a encore un réel manque de liant, de constance et par moments, un criant manque de créativité. L'absence de Delaney, c'est trop, entre parenthèses, fait ressentir. Mais l'absence d'un seul joueur ne devrait pas déséquilibrer une équipe comme Anderlecht. J'ai trouvé très intéressant ce commentaire parce que je trouve qu'il y a plusieurs, d'abord, premièrement, plusieurs arguments sur lesquels je le rejoins totalement, mais en plus de ça, il montre en fait, si tu veux, cette propension. Et là, tout de suite, on va aller sur la question des axes de progression d'Anderlecht. Est-ce que vous ne trouvez pas, par exemple, Riemer un peu trop axé sur l'offensive parfois, Quentin?
Ouais, surtout dans le milieu de terrain. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment une osmose dans ce milieu de terrain. Il y a une grosse séparation. Et moi, qui ai été plusieurs fois allé voir au stade, il y a un énorme trou. Et c'est là le problème, mais tu peux pas jouer avec Verskaren et Stroikens, par exemple, qui sont vraiment deux profils plus proches du 10 que plus proches du 6. Mm-hmm. Tu dois vraiment avoir ce point relais que normalement, on a déjà parlé plusieurs fois, Théo Léoni doit jouer. Tu dois avoir vraiment une belle colonne vertébrale. Et là, t'as pas une belle colonne vertébrale, je trouve. Et je le rejoins aussi dans le fait qu'on en a parlé précédemment aussi dans les émissions, que Anderlecht, c'est plus des individualités qu'un collectif. Et c'est ce qui fera notamment défaut pour moi dans le futur. Et c'est là qu'il manque ce petit truc également.
Oui. Est-ce que l'ADN mauve est inscrit dans le football de Brian Riemer, Mehdi?
Non, mais ça, c'est un fait certain. Après, j'ai un peu de mal avec cette notion d'ADN. Le dernier coach qui nous a ramené un titre, René Weiler, disait « L'ADN ne te fait pas gagner de titre ». Ça a été mal perçu par les supporters, mais moi, je suis assez d'accord avec ça. Je veux dire, on a eu Vincent Kompany qui a fait du très bon boulot, qui a essayé de ramener l'ADN. Les résultats étaient pas top. Enfin, je me rappelle de matchs où on avait 80% de possession de balle, où on jouait dans le rectangle, mais finalement, c'était 0-0 contre le KV Mechelen. Donc, cet ADN, cette notion d'ADN, c'est très subjectif. Moi, je préfère avoir un titre sans l'ADN et que voilà.
Mais je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'avant, on avait vraiment l'enjeu qui prenait le pas sur le jeu, ou parfois le jeu qui prenait le pas sur les résultats. On peut penser notamment à l'époque Vincent Kompany, où là, c'était beau, c'était chatoyant, c'était intéressant dans le développement d'idées, mais souvent, les résultats ne suivaient pas. Est-ce que maintenant, Xavier, tu penses que Brian Rimmer a trouvé le bon équilibre?
Le bon équilibre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais en tout cas, pour les résultats, oui. Au final, c'est les résultats qui parlent. La manière, au final, à la fin, tu ne la retiendras pas, tu retiendras juste les titres, comme l'a dit Mehdi. Mais l'équilibre, je ne suis pas d'accord dans le sens où, depuis en fait, la blessure de l'année, pour moi, je trouve qu'il manque cet équilibre au milieu de terrain, un peu comme Quentin l'a dit aussi, parce qu'ils n'ont pas de joueurs avec le même profil. Léonie, on parle de Léonie, mais je trouve que Léonie est un cran plus offensif, de jouer un petit peu plus haut. Il n'y a pas de vrai milieu récupérateur, de vrai milieu défensif devant la défense pour faire ce lien en milieu milieu. C'est ça qui fait aussi qu'on a un jeu trop offensif au milieu de terrain, je pense, du côté d'Anderlecht.
T'as Delaney qui doit jouer ce rôle de numéro 6.
Ouais, ça, c'est mais justement, il est blessé, toi.
Mais là, il va revenir. Mais tu dois avoir justement ce 8. C'est ce 8 plus, moi, je pense qu'il manque.
Oui, je pense que tu peux avoir Ritz, tu peux avoir Léonie qui peut jouer, en fait. Mais t'as pas ce vrai numéro 6. T'as que Delaney, toi. Et on met d'autres joueurs. On a mis Ritz ici en attendant. Mais lui, c'est pas son rôle, tu vois. Donc, t'as pas de doublure pour lui. Et au mercato, tu aurais peut-être dû essayer d'avoir une doublure pour ce poste-là. Que ça qui fait que le milieu de terrain d'Anderlecht, on dit toujours qu'il est trop offensif, qu'il n'y a pas forcément d'osmose à ce niveau-là.
Je suis assez d'accord avec vous par rapport à Delaney. Par contre, il faut quand même pas oublier que même quand Delaney était là, le jeu n'était pas non plus incroyable.
Non, mais je trouve que le milieu de terrain était plus équilibré, toi.
Oui. Et là où moi le problème doit être pointé, c'est pour moi c'est Mats Ritz. Joueur de l'ombre, joueur très important. On me dit en interne, parce que je connais plusieurs joueurs, que c'est un joueur vraiment super important au niveau de la cohésion de groupe et dans son rôle, même sur le terrain, qui est aussi un rôle de l'ombre. Mais pour moi, c'est insuffisant. Et quand je pense qu'on a...
Tu trouves que Mats Ritz, c'est un niveau insuffisant avec le Sporting?
Je trouve que c'est un joueur très très bon, qui a son vécu pour lui, etc. Mais moi, je trouve qu'à cette place-là, on pourrait mettre, par exemple, un Delaney ou même un Théo Léonie dans un rôle un petit peu plus reculé, qui apporterait un peu plus que Ritz. Ritz, par exemple, ce week-end, c'est énormément de déchets techniques. C'est finalement, quand on regarde, il récupère pas énormément de ballons. Il a un rôle vraiment très, très bas sur le terrain, donc il est quasiment entre les deux centraux. Et pour moi, c'est ça qui crée ce fossé, ce trou dans le milieu de terrain. On a deux joueurs 10 assez haut sur le terrain et Ritz qui est pour moi un peu trop bas. Et donc, on a vraiment une zone de 15-20 mètres où c'est quasiment le néant. Et donc, pour moi, l'explication vient aussi de Mats Ritz, qui est pour moi un petit peu insuffisant pour l'instant.
Oui, alors, effectivement, ça peut partir de Mats Ritz, mais est-il seul dans les tâches défensives du milieu de terrain? Parce que ça s'est vu face à Bruges, et c'est une discussion qu'on avait eue aussi ici dans le club Arles. C'est intéressant que tu sois là. Est-ce que c'est pas trop offensif de mettre un Verskjaeren et Mario Strokens dans le cœur du jeu? Est-ce qu'à un moment donné, la question Théo Léonie va pas devenir un problème pour Brian Rimmer? Est-ce qu'il faudrait pas avoir un milieu de terrain un peu plus équilibré, histoire de ne pas mettre toute la force du travail défensif sur les épaules d'un mec comme Mats Ritz?
Oui, c'est tout à fait, c'est une bonne question. Mais moi, j'ai un problème alors avec Verskjaeren, parce qu'alors, dans quel rôle tu mets Yari Verskjaeren?
Sur le banc.
Ouais. Ouais, voilà. Mais comme on en discutait là tout à l'heure, c'est potentiellement une valeur marchande. Mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, Yari Verskjaeren n'a pas sa place actuellement à Anderlecht. Et, je suis convaincu que pour moi, un milieu avec une osmose et un équilibre parfait, c'est Delaney, c'est Théo Léonie et c'est Mario Strykens. Avec des étages.
Ouais, c'est
ça. Ça bougera pas. Pourquoi? Théo Léonie, il est trop gentil. Théo Léonie, c'est pas le genre de mec qui va arriver, qui va taper du poing dans le vestiaire, qui va dire « Ouais, coach, moi j'en ai marre, moi je veux jouer, mes performances elles sont comme ça. » Par exemple, tu en avais parlé, un Yeboah, qui a fait le feu et le coup au standard, un joueur de caractère. Et Léonie, même quand on entend ses interviews, il est trop gentil. Tu le sens, ouais, il est là, bah, je suis content, moi je viens de RCA Futur et tout. Et je suis déjà content d'être là, je suis content d'être sur le banc de montée. Non, t'as les prestations pour, t'as fait une bonne première partie de saison, tape du poing sur la table, tu dis « Moi je veux jouer, coach. » Je sais pas, je trouve qu'il manque un peu de caractère à ce niveau-là.
C'est vrai que l'exemple de Yeboah est assez parlant. Effectivement, dès son premier match, il avait tout de suite été très énervé de ne pas jouer. Il a montré qu'il prouvait d'être titulaire. Est-ce que c'est peut-être ça aussi qui peut pas... Alors, on aime bien parfois mélanger un petit peu les différentes identités dans le football belge, mais est-ce que le côté rageur, des bad boys, est-ce qu'Anderlecht en a pas besoin à un moment donné dans son 11 de base?
Oui, bah, sur le terrain, Théo Léonie, c'est
pour reprendre les phrases de Bologna, est-ce qu'il n'y a pas besoin de salopards à Anderlecht?
Bah, il y en a un. Vertonghen est quand même le plus gros salopard du football belge, si on peut dire. Allez, oh, ça, c'est une crème en dos.
Avec Burgess.
Ouais. Mais Léonie, sur le terrain, c'est une sorte de...
Allez, Van Aken.
Léonie, c'est quand même... il mord les chevilles. Enfin, tu vois, sur le terrain, c'est un profil assez hargneux. Maintenant, ne négligeons quand même pas la pression populaire en Anderlecht, où Léonie est très, très, très aimé. Je pense que si ça tourne pas bien une semaine ou deux, je pense que son nom va vite être scandé pour...
C'est intéressant ça. Tu parles de pression populaire. Est-ce que tu penses sincèrement que ça peut avoir un impact sur les choix de Brian Rima?
Ben bien sûr. Moi j'en suis certain. En début de saison, Léonie n'est pas considéré comme un titulaire. N'est pas considéré du tout. Et le match à l'Union où ça pète un petit peu avec les supporters, le facteur X de l'éclosion de Léonie. Sans ça, Léonie ne joue toujours pas actuellement à Anderlecht.
Ok, parce qu'il y en a un côté pas d'accord.
Il jouait pourquoi? Parce que Verskaren est encore blessé. Ici, Verskaren, il est revenu et même si tous les supporters, je pense 99%, le voient clairement que Léonie fait de meilleures prestations que Verskaren, là où j'en rejoins Sacha, ben Rimmer, non, c'est Verskaren qui joue, c'est Verskaren qui jouera. Les supporters ont beau chanter Théo Léonie à chaque fois qu'il monte au jeu, faire son chant et tout, c'est beau. Rimmer, je pense qu'il en a rien à caler. Il avance son idée Verskaren et voilà, il dit c'est moi qui aligne le 11, c'est pas les supporters et je pense que ça changera rien du tout.
Je suis pas certain parce que pour l'instant les résultats sont bons donc tout va un peu avec le vent, mais au moment où ça va un petit peu être négatif, là, la pression sera tellement importante qu'il va être obligé de faire un petit pas vers les supporters. Allez, je le souhaite pas parce que ça voudrait dire que les résultats sont pas bons, mais l'exemple de l'Union Saint-Gilloise, le premier match, sans cela, pour moi, je suis quasiment persuadé que Léonie ne fait pas ce premier début de partie de saison et on voit pas le talent de Léonie comme on l'a vu cette année.
Alors, si on sent ensuite ton raisonnement, il aurait dû faire monter Vasquez plutôt dans le match de ce week-end. Mais donc, il l'a pas fait. Du coup, ça veut dire qu'il a à sa tête et qu'il n'écoute pas les supporters.
Ouais, mais je suis persuadé que le prochain match, à cause de ça, Vasquez sera ou si pas titulaire, va montrer beaucoup plus vite.
Alors, il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a deux choses importantes. Vous avez parlé de l'Union. On va y revenir parce que pour moi, il y a quelque chose dans cette Union-là qu'Anderlecht n'a pas, dans la grinta y sangre, dans quelque chose d'aller chercher les duels, l'impact. Il y a un moment donné où il faut être méchant dans le football et Anderlecht a des difficultés à l'être. Et puis, il y a les choix de Brian Rimmer qui, à un moment donné, peuvent complètement lui péter son vestiaire. Et c'est là qu'on se pose une question très simple. Est-ce que dans ce registre-là, est-ce qu'il a les épaules pour être l'entraîneur du Sporting d'Anderlecht?
Moi, je suis partagé sur le sujet Brian Rimmer parce que on est forcé de constater que les résultats et les chiffres parlent pour lui. Maintenant, moi, je suis pas persuadé qu'à long terme, c'est l'entraîneur idéal pour Anderlecht.
Ok.
De parce que ses choix sont toujours, c'est toujours, ils sont toujours sur le fil, toujours, ils limitent toujours. On voit pas vraiment, c'est pas vraiment au mérite, un Luis Vasquez qui monte que 10, 12 minutes ce week-end, c'est pas normal pour moi, tu vois. On a la même chose avec Théo Léonie, on a la même chose. Donc il est toujours sur ce fil. Maintenant, les résultats, allez, c'est 60 sur 84, c'est 17 matchs sans défaite, c'est 2 défaites seulement, c'est 5 victoires consécutives, enfin, tout parle pour lui, donc...
Et on l'a vu après le match face à Eupen, les pleurs de Luis Vasquez ne trahissent pas. Ça fait mal et il doit aussi gérer cet aspect humain.
C'est ça, exactement. Et c'est là, moi, je suis vraiment d'accord avec ce que tu disais. Et la différence par rapport à l'Union, c'est la gestion, mais la gestion des remplaçants. Parce que l'Union, j'ai encore vu ce week-end, des teclabs. Il n'avait jamais joué de la saison, ici, sur les 4 derniers matchs, 3 fois titulaire. Un Terro qui a été super bon à l'OHL, également présent. Un Eckert qui monte, t'as un Nilsson qui le remplace, Nilsson qui est décisif. T'as un Sykes qui remplace McAllister. Sykes, il a encore marqué. C'est affolant. Et je trouve que la gestion de l'Union à ça, ils ont un énorme groupe. Ils n'ont pas 11 joueurs, ils n'ont pas 12 joueurs, ils n'ont pas 13 joueurs. Ils ont un gros groupe, l'Union. Et c'est là que pour moi, ça va faire la différence au playoff. Donc imagine, t'as un joueur qui se blesse, t'as un joueur qui est suspendu, t'en as un qui va le remplacer. Et tu sais que celui-là, il peut jouer. Il est aussi, pas aussi fort que celui qui est titulaire, mais il est très fort et peu décisif aussi. Et je trouve qu'à Anderlecht, cette gestion des remplaçants, elle est pas incroyable.
Ouais, mais je trouve que c'est plus simple aussi de gérer, une rotation quand tu joues sur plusieurs fronts.
Bien
sûr. Quand tu joues que le championnat, c'est compliqué à dire Dolberg, ouais, tu joues dans 3 jours, ce week-end, repose-toi, par exemple, toi.
Bien sûr, ça, je dis pas le contraire, mais ils avaient aussi, alors, un moment, de la Coupe de Belgique, avant et tout, cette rotation de l'Union, elle vient pas d'ici de 2 semaines.
Ouais, mais
toi.
La Coupe de Belgique, tu joues un match tous les 6 mois, enfin, j'exagère, mais c'est presque ça. Quand tu joues vraiment l'Europe comme l'Union, tu joues un match tous les 3 jours, tout le temps, depuis le début de la saison, t'es obligé de faire de la rotation. Tu peux faire passer des messages à des joueurs, à des, on va dire, entre guillemets, des stars. Enfin, Dolberg et tout ça, toi, il est venu quand même en tête d'affiche ici.
Ouais, t'as le même cas avec Bruges, et Bruges, t'as pas ça. Alors qu'ils jouent le même calendrier que l'Union.
Ouais, mais t'as vu les résultats de Bruges.
Ouais, mais justement. Ils ont le même calendrier que l'Union, et ils ont pas cette osmose ici avec l'effectif, parce que quand il fait tourner, ben, les remplaçants sont pas aussi bons que les titulaires.
Après, il y a peut-être, pour reprendre pour Xavier, il y a peut-être une opportunité qu'Anderlecht n'a pas, que l'Union a. C'est qu'il y a beaucoup de matchs dans la saison, beaucoup plus qu'Anderlecht. Donc, il y a une possibilité de turnover. Et quelque part, les joueurs sont directement impliqués. Où là, ben, le Sporting d'Anderlecht a l'opportunité d'avoir une semaine bien peinard pour préparer un match et le gagner. Mais quelque part, il y en a d'autres. Voilà, il s'est déjà fait, c'est pas moi qui le dis, c'est la fameuse phrase de Jürgen Klopp. T'as 11 mecs qui sont prêts à se battre pour toi. T'en as 5-6 qui sont quand même tes copains, qui t'aiment bien, mais fais attention. Et il y en a 5-6 aussi qui sont pas là et qui jouent pas, qui te détestent dans le groupe, quoi, dans le vestiaire.
Pour revenir sur l'Union, allez, ils sont vraiment dans une bonne vibe où tout leur sourit. Mais cette gestion, Blessing, c'est un top coach qui fédère vraiment un collectif. Mais là où je suis pas d'accord, c'est de dire que la gestion du noyau fait que les résultats sont, enfin, que les joueurs performent. Je pense à Ekert Ayensa, début de saison en fanfare, il claque des goals, etc. Il tombe aux oubliettes pendant 2-3 mois avec la venue d'Amoura, la révélation, etc. Maintenant, Amoura part à la CAN, on a de nouveau besoin de lui ou de Rodriguez. Et tu vois, c'est toujours des concours de circonstances qui font que ces joueurs reperforment. Mais de là à dire que c'est grâce à cette gestion que, par exemple, Teklab ou Ekert performent.
Non, mais ça aide. Ça aide parce qu'ils ont cette rotation et ils peuvent performer. Ici, allez, un Vasquez, tu lui donnes 10 minutes de jeu contre Le Pen. Désolé, mais tu le mets pas en bonne condition. Un Angulo, tu le fais monter une ou deux minutes. Tu le mets pas en condition. Mais par contre, si t'es dans un match fermé ou t'as un match que t'arrives pas à bien jouer en playoff 1, tu vas avoir besoin de cet homme qui va monter sur le terrain, qui aura les crocs, qui aura envie et qui sait qu'il va pouvoir le faire. Et les coéquipiers aussi, pour lui dire, je peux lui faire la passe. Parce que lui, je sais ce qu'il vaut. Il l'a déjà montré, tu vois.
Ouais,
c'est
mais,
important aussi, tu vois.
Mais cette rotation, elle est due à des concours de circonstances. Si Amoura part pas à la CAN, je suis pas sûr qu'on revoit Rodriguez comme on l'a vu. Si Rodriguez se blesse pas, je suis pas sûr qu'Ekert Ayensa rejoue comme il a rejoué ces dernières semaines, tu vois. Donc c'est des concours de circonstances. Il a pas, Blessing ne fait rarement des choix où il dit voilà, maintenant toi tu vas être un peu sur le banc parce qu'on fait cette rotation. C'est souvent des concours de circonstances qui font la CAN, les blessures, le fait qu'ils jouent, ils ont un match un petit peu moins important ce week-end, tu vois.
Mais je veux dire, le fait de faire cette rotation permet d'avoir un effectif soudé, un collectif. T'as un collectif parce que tout le monde joue. Et ça, comme Xavier le disait, ça aide avec le calendrier. Mais t'as ce collectif où tu vois qu'ils sont tous copains, ils sont tous là en train de s'entraider, ils connaissent tous les valeurs, les qualités de tout le monde et tout.
Mais quoi, alors, par exemple,
c'est plus les individualités.
Angulo. D'accord, c'est plus les individualités. Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que parce que Angulo a mis un but à Bruges, on doit le mettre titulaire?
Bien sûr que non.
Voilà, là je rejoins aussi Mehdi dans le discours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as des joueurs qui ont des statuts. À Anderlecht, le problème, c'est une question de statut, mais quelque part, ça peut aussi être une solution parce que les joueurs qui ont ce statut l'ont mérité. Je veux dire, va déloger Thorgan Hazard, va déloger Anders Dreyer. Tu vois, c'est compliqué sur un match. Encore une fois, la prépa sur un match, si Anderlecht était européen, je peux comprendre. On voit des talents, on voit des joueurs, etc. Le truc, c'est que quelque part, il est peut-être trop fourni, ce groupe d'Anderlecht, trop de joueurs de qualité.
En fait, certain. Là, le seul point où je rejoins mon collègue ici, c'est Dolberg, c'est Vasquez. Il y a clairement un moment, on va avoir un problème avec Vasquez parce que le gars monte, il donne, il marque, il ramène des points. Et à côté de ça, t'as Dolberg qui a un certain statut, qui est venu certainement, comme tu l'as dit, qui est venu en direct avec un statut, avec un rôle où il doit jouer. Mais Dolberg, c'est un petit peu incolore, inodore, tu vois. Il y a certains matchs contre Penn, on se demande qu'est-ce qu'il fout sur le terrain, tu vois, par moment.
Oui, alors, plus paradoxalement, c'est quand même un joueur qui, dans la surface de réparation, est clinique.
C'est ça.
C'est ça, sa grande qualité. C'est qu'aujourd'hui, on ne lui demande pas de participer au jeu collectif. On lui demande, à un moment donné, d'être à la bonne place au bon moment, de faire le bon décalage pour permettre soit à son ailier droit ou son ailier gauche d'être face au but, ou alors de mettre ce petit pointu qui va mettre le ballon au fond et faire la différence.
Mais tu trouves qu'il l'est cette année?
Ouais, ça on n'en parle pas assez. Pour moi, il est très fort dans son rôle de pivot avec un Dreyer et un Thorgan Hazard, où ça va être le joueur où Thorgan Hazard et Dreyer le connaissent. Ils vont savoir qu'ils vont pouvoir jouer le 1-2, rentrer sur leur bon pied et enrouler. Pour ça, lui, il est meilleur que Vasquez dans ce rôle-là. Dans les petits espaces, les petits touches de balle, les petits 1-2 et tout. Et c'est là où Anderlecht était fort. Quand on regarde le match à Charleroi, les deux goals qu'ils mettent, qui tuent le match, c'est comme ça. Ils jouent dans un tout petit espace parce qu'ils jouent des petites combinaisons, des 1-2. Et Dolberg est très fort dans ce rôle-là.
Alors, il y a une chose qui est très claire, Mehdi, c'est que dans le football et dans le prisme des analyses, parfois, je ne dis pas que tu le fais, hein, mais en général, on a tendance à mettre de côté les joueurs qui sont très forts dans le mouvement sans ballon. Et que ce soit pour les milieux de terrain, ou Ritz, par exemple, dans le mouvement sans ballon, je le trouve excellent dans l'intelligence de son placement.
Dans l'ombre.
Et Dolberg aussi. Je trouve qu'il y a vraiment une plus-value qui est faite dans les efforts qui sont faits et les espaces libérés pour ses partenaires qui, eux, adorent avoir le ballon dans les pieds. Imagine si tu avais un attaquant qui demandait tout le temps le ballon pour faire des remises jeu simples et tout le temps venait monopoliser dans l'axe ce ballon. Le jeu d'Anderlecht serait beaucoup plus stéréotypé.
Là où je te rejoins pour Ritz, c'est ce rôle de l'ombre. Dans un numéro 6, il n'y a pas de problème. Ça peut être une de ses grandes forces caractéristiques. Là où j'ai un petit problème par rapport au rôle de 9 de Dolberg. Alors certes, il travaille beaucoup dans l'ombre également, mais dans un match contre Penn où il a zéro occasion franche, zéro tir, là j'ai un problème à domicile.
C'est lui qui amène le premier goal. C'est lui qui amène le goal sa course et qui laisse Thorgan Hazard à droite. Comme Sacha disait, les courses qu'il fait sans ballon, il n'a pas le ballon et c'est lui qui attire tous les défenseurs sur le côté gauche. Thorgan Hazard est tout seul et il sait la mettre.
Oui, c'est clair. Et il est même à l'origine de l'action avec son petit pointu qui passe entre les jambes et où il lance la contre-attaque finalement. Mais est-ce qu'à Anderlecht, à domicile contre Eupen, on peut se satisfaire de ça, d'un joueur comme Dolberg, tu te satisfais de ses courses de l'ombre?
Moi, je pense pas.
Après, il fait de la place aux autres, toi.
Moi, pas.
Enfin, c'est ça. Si tu mets un Vasquez, peut-être que t'as un Thorgan Hazard ou un Dreyer qui brillerait moins.
Je pense que le problème pour moi, il est physique. Et que Brian Riemer, dans les périodes d'entraînement notamment, il est trop jouette, il est trop gentil. Il y a certains joueurs avec lesquels, voilà, ils n'osent pas trop ébranler leurs convictions, leur façon de jouer, etc. Et qu'à un moment donné, ça, c'est des choses qui se travaillent à l'entraînement. Mm-hmm. Et que si Dolberg, par exemple, était peut-être dans un niveau d'intensité un peu plus important à l'entraînement, eh bien, il le serait peut-être plus longtemps pendant les matchs. Pour moi, ça se voit. Un joueur qui s'éteint comme ça pendant une partie de match et qui est excellente dans une certaine partie au début de la rencontre, pour moi, il y a un problème de jus. Ouais, tu vois, il y a un problème d'intensité, il y a un problème de préparation physique, en fait. C'est uniquement ça. Et c'est là qu'on revient sur l'histoire de Brian Riemer. Et ma question, a-t-il les épaules pour vraiment faire briller le Sporting d'Anderlecht et le faire réussir? Est-ce que c'est lui l'homme, ou est-ce que c'est juste l'homme de main de Fred Berg qui répond aux demandes de Jesper Fred Berg? Et on va arriver, bien sûr, sur le gros dossier Jesper Fred Berg, parce que c'est quand même lui l'architecte de ce Sporting d'Anderlecht-là. Est-ce qu'il est vraiment plus que l'assistant qu'il était à Brentford? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une identité Riemer? Moi, je ne pense pas.
Il y a une identité Riemer, ça, oui.
Oui.
Parce que le pressing, le contre-pressing, cette intensité qu'ils mettent chaque fois à la paire de balles, on marque beaucoup de goals sur la contre-attaque. Et les chiffres sont là en direct et l'équipe qui réagit le mieux, ça veut dire que quand on est mené, on va souvent chercher la victoire. Ça, c'est la patte Riemer.
D'accord.
Maintenant, est-ce que c'est l'identité qui plaît aux supporters et qui va ramener des titres à Anderlecht? Ça, je suis pas certain.
D'accord, ok, c'est intéressant. Alors, dans ce cas-là, ton analyse, ça va nous permettre justement de faire tout de suite la liaison avec Jesper Fred Berg. Messieurs, je vais vous demander de noter sur 10, depuis son arrivée, Jesper Fred Berg. Mehdi.
8.
8 sur 10. Quentin.
6.
Il galère, hein.
Je dirais 6 parce que c'est trop danois pour moi. Il y a des bons, Dreyer, c'est un bon achat et tout, mais il y a trop, tu peux pas être trop focus sur une nationalité, je suis désolé.
Why not? Non. J'ai un problème avec ça, même en direct, on entend beaucoup de supporters en direct, ils disent oui, mais c'est trop danois, si c'était un danois, il jouerait, mais il est où le problème?
Non, parce qu'en fait, t'es focalisé dans une, ça veut dire que si t'as pas un bon danois, t'as pas de solution. Non, tu peux aller voir ailleurs.
Si, mais chaque personne qui vient avec son réseau, avec son portefeuille, évidemment, il va se tourner vers ce qu'il connaît, vers ce qui fonctionne pour lui. Donc évidemment, si, allez, on prend Saint-Tron qui a été un moment fort sur la piste asiatique, il est où le problème?
Mais t'as mis 8.
S'il vous plaît.
T'as mis 8?
Oui, j'ai mis 8, oui.
Ouais, pour moi, pour mettre une aussi belle note, il faut qu'il y ait un titre.
Mais parce qu'on vient vraiment d'une période de déclin, hein, Anderlecht, donc on vient vraiment de très très loin. Anderlecht qui finit 11e, qui arrête ça, c'est... Oui, mais il a eu quoi, 4 mois, 3 mois, 4 mois, c'est pas lui qui est... C'est pas l'architecte de cette saison... maudite, on va dire. Anderlecht qui est 11e, qui finit sa saison au mois de mars-avril, c'est incroyable. Et... quand tu vois d'où tu viens et où tu arrives avec les transferts qu'on a eu, faut pas oublier qu'on vient de l'époque Luc De Vroux, Marc Cook avec des joueurs d'Ostende. On avait 6-7 joueurs d'Ostende. Tu vois, encore une fois, on revient au réseau. Là, à cette époque-là, on disait, oui, si t'es pas un joueur d'Ostende, tu joues pas en Anderlecht, tu vois. Donc, c'est chaque agent, chaque personne, chaque manager qui vient, il vient avec son réseau. Et donc, pour moi, il y a aucun problème que ce soit des Danois, des Suédois, des Norvégiens, s'ils amènent une plus-value au club.
Pour s'entendre, pour s'acclimater au club et tout ça, c'est plus simple aussi, toi.
Évidemment. Et puis.
Le problème, c'est la monopolisation du même réseau sur tout le temps, les mêmes fils, et surtout l'utilisation de la même agence de management pour faire les deals. Ça, c'est un vrai souci.
Si c'est un autre agent, il viendra avec son réseau à lui, tu vois.
Je pense pas que Peter Verbeek faisait uniquement appel à la même agence quand il faisait des transferts. Il a beau avoir beaucoup de défauts et on a beaucoup, beaucoup de critiquer Peter Verbeek. Ça, il ne le faisait pas.
Moi, j'aime beaucoup Peter Verbeek. Hein. C'était quelqu'un de très compétent, à mon avis. À un moment donné, il a été mis à une place qu'il n'aurait jamais dû accepter, mais il aurait dû rester dans le rôle initial pour lequel il était venu à Anderlecht. Mm-hmm. Mais voilà, après, il y a un an, deux ans, et les périodes qu'on a connues, qui aurait cru qu'on aurait eu Kasper Schmeichel à Anderlecht? Qui aurait pu dire, ouais, non, on le prend pas, il est un petit peu en surpoids.
Même Dolberg.
Même Dolberg, c'est incroyable. Ouais. Et j'ai l'impression qu'actuellement, on se rend pas vraiment compte de cette chance et on tape un petit peu là où ce qu'il faut pas taper. Je parle pas de toi, je parle même des supporters en Anderlecht, en règle générale. Il faut profiter.
Tu penses que lui a profité de son réseau pour le bien général du Sporting? C'est ça
en tout cas, c'est un fait certain.
Pourtant, Schmeichel est une énorme plus-value pour Anderlecht.
Pour moi, Schmeichel est une plus-value et vous avez été c'était aussi sur ça que j'étais pas d'accord avec vous. Vous avez été très critique avec Kasper Schmeichel.
Règlement de compte, donc le Mars.
On se rend pas compte, mais le gars, c'est énorme qu'ils soient Anderlecht. Hein.
Mais début de saison, il avait du mal. Maintenant, c'est pas mieux.
Il a eu du mal. Allez, c'était un peu le bouc émissaire. Comme Sardella, là, il était un petit peu à son époque, mais Schmeichel, ça a été le bouc émissaire d'Anderlecht. Et il a jamais fait des trucs incroyablement ou qui nous ont coûté des points non plus.
Ouais, je sais pas. Moi, je pense que quand il était arrivé en vacances. Hein. Que le départ de Maxime Dupé, le fait de l'avoir conforté en tant que numéro 1, là, plutôt, lui a fait du bien à la trêve internationale. Et que forcément, aujourd'hui, bah, il n'y a plus personne d'autre pour pouvoir prendre... Si, il y a le fameux Mats Kickenborg qui a du talent et qui, effectivement, a ce potentiel pour reprendre la saison prochaine le rôle de numéro 1. Mais Kasper Schmeichel, c'est pas un... gardien qui va te sauver un match, comme par exemple un Tibo Leysen à Rochelle.
C'est ça.
Wow, ça, je suis pas trop d'accord. Hein. Quand tu vois les performances qu'il a réalisées avant l'intersaison, je pense au match contre Genk, il y a encore contre le cercle aussi, où est-ce qu'il est prépondérant. Je pense que le facteur X, ça a été les déclarations de Karl Lofkens.
Mais tu penses que la réussite d'Anderlecht ou non va passer par le fait que Schmeichel soit bon? Est-ce que c'est lui le facteur X? Non, c'est pas lui.
C'est pas le facteur
X. Alors que Rachel, c'est Balaise.
Ouais, mais tu peux pas comparer Anderlecht et Rachel.
Anderlecht, c'est un jeu dominant.
Quand t'es le Sporting d'Anderlecht, tu dois avoir un grand gardien qui fait des différences. Anthony Morris, et je peux le dire parce que c'est moi qui commentais le match, Anthony Morris fait la différence à l'Eintracht Francfort à la fin de la première période et à la fin de la deuxième. Anthony Morris est l'homme du match qui permet notamment à l'Union Saint-Gilloise, qui a de grandes qualités offensives, d'être l'homme qui va lui permettre d'aller chercher la qualification à l'Union. C'est pas le cas. Kasper Schmeichel n'a jamais fait ça cette saison.
Kasper Schmeichel contre Genk, c'est le facteur X. Sans Kasper Schmeichel, tu gagnes pas le match contre Genk à la maison.
Tu penses?
Je suis certain. J'en suis persuadé. Et j'ai même une petite stat, c'est le gardien actuellement en Jupiler Pro League qui a le plus d'arrêts clés par match.
Ok.
Donc, c'est quand même assez énorme hein, pour un club comme Anderlecht qui est censé faire le jeu. Kasper Schmeichel, c'est 4 arrêts clés en moyenne par match cette saison.
Ouais, surtout qu'Anderlecht, ils ne subissent pas souvent beaucoup de tirs non plus. Enfin, un gardien qui est souvent mis à contribution, souvent on dit que c'est un bon gardien. Et d'autres, des fois, les gardiens, c'est toujours dur à juger, je trouve. Des fois, tu as des gardiens qu'on dit, ils sont excellents. Alors
ça dépend
final,
le contexte. Voilà.
C'est juste qu'ils ont une bonne équipe. Et un gardien qui est souvent mis à contribution, ben, il fait beaucoup d'arrêts, donc on le voit plus et tout ça. Qu'un gardien à Anderlecht, toi, il n'est pas souvent mis à contribution non plus. Donc c'est dur de se dire, ça va être lui qui va te sauver le match.
C'est là que tu le verras en playoff 1.
Ouais, voilà.
Il a une contribution et c'est là qu'on verra si c'est un grand gardien qui peut ramener quelque chose.
À ce moment-là, on pourra juger, mais à l'heure actuelle, c'est dur de juger.
Pardon, excuse-moi.
Non, il n'y a pas de souci. Je voulais demander à Xavier sa note sur 10 parce qu'il n'a pas donné sur
Jeu. Moi, je dirais 8, 7, un truc comme ça, entre 7 et 9, en tout cas, parce qu'Anderlecht, ils reviennent de nulle part. Maintenant, ils sont deuxième. Ils pourraient même viser potentiellement le titre, même si ça reste compliqué. Quand tu vois les transferts qu'ils ont ramenés, Thorgan Hazard, Dolberg, Schmeichel et j'en passe, toi, je veux dire, honnêtement, c'est un super mercato, c'est une super saison, tout va dans leur sens pour le moment.
Est-ce que c'est l'arrivée de Jesper Fredberg qui a permis à Anderlecht de retrouver son statut dans le championnat de Belgique?
En tout cas, vu les personnes qu'il a ramenées, je pense que oui, toi.
Oui.
Je vais même aller plus loin. Jesper Fredberg, c'est vraiment une dynamique, c'est une façon de penser. C'est le gars qui dit, voilà, toi, tu as 6 mois de contrat à Anderlecht, tu hésites à prolonger ou pas, eh ben tu pars. C'est il est ferme, tu vois, c'est l'intérêt du club avant tout. On a perdu quelques talents, Sadiki, je pense, des Duranville, etc. Mais c'est la patte Jesper Fredberg. Alors, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Mais il a une vision claire. Tu es impliqué dans le projet, tu as ta tête 100% d'Anderlecht, tu peux rester. Tu hésites, il y a des doutes, blablabla, tu pars.
Ouais,
et ça, c'est encore le mérite de Jesper Fredberg également.
Il ne s'est pas fait non plus que des amis sur le dossier Lucas Tassin, ça je peux te le confirmer. Où il a été plus que ferme, il a carrément fait venir la guerre à l'entourage de Lucas Tassin ainsi qu'à Westerlo. Bon, finalement, ils ont réussi à trouver un deal et tant mieux. Mais c'était ô combien compliqué. On se rappelle de Lucas Tassin qui avait demandé à de nombreuses reprises de quitter le Sporting parce qu'il n'allait pas y avoir sa chance. Bon, finalement, il n'aurait pas eu sa chance. Maintenant, il est un petit peu blessé. On lui souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement. Vendre Sadiki à l'Union Saint-Gilloise, est-ce que c'est la plus grande erreur que la direction du Sporting d'Anderlecht a fait sur ces deux derniers mercato, selon toi?
Non, parce que Sadiki, encore une fois, c'est le contexte qui permet... Qui performe actuellement, il est vraiment dans un environnement où il n'y a pas de pression, où finalement il n'est pas titulaire indiscutable, mais quand il joue, il le fait très très bien. C'est une plus-value pour l'Union. Mais force est de constater qu'Anderlecht, alors il était peut-être dans une mauvaise période, dans le mauvais Anderlecht, la mauvaise période d'Anderlecht, mais il y a eu 2 ou 3 coachs qui se sont succédés. Il n'a jamais été indiscutable. On ne peut pas dire qu'il a crevé l'écran quand il jouait. Donc non, c'est pas une erreur pour moi de l'avoir vendu.
Mais tu vois, quand je parle de Grinta Isak, de cette volonté d'aller à un moment donné, tu sais, mettre des pains dans le milieu de terrain, il y a un truc, à un moment donné, moi, que j'aime dans le football. Alors, c'est peut-être propre à ma personnalité. Je fais pas de jugement sur les différentes interprétations du foot des autres. Mais à un moment donné, un Sadiki au Sporting d'Anderlecht, quand il faut aller mettre un tacle au milieu de terrain et qu'il faut aller récupérer ce ballon pour très vite se projeter avec la vitesse et la technicité d'un joueur comme Thorgan Hazard, d'un joueur comme Andres Dreyer, Mario Strootkens, Yari Vorskaren, ça peut aller très très vite devant. Mais t'en as besoin d'un joueur comme ça?
Moi, je pense qu'il jouerait pas Anderlecht. Enfin, allez, il a un bon niveau, mais je pense qu'il jouerait pas Anderlecht, honnêtement. Hein. Sans méchanceté aucune, c'est un très très bon joueur. Et
tu n'as pas ce profil-là, on est d'accord.
Tu n'as pas ce profil-là, mais déjà, Anderlecht, c'était un arrière-droit.
Ouais.
Il a jamais joué au milieu de terrain.
C'est vrai. Donc, c'est une trouvaille, encore une fois, de blessing.
Ah,
comme
vrai,
il avait fait la trouvaille, la fameuse trouvaille Arthur Théâtre, du latéral gauche, en position centrale gaucher. C'est un homme de trouvaille,
exactement.
Un homme d'idée, Alexander Blessing.
Et Sadiki Soumadzou, c'était pas incroyable, hein. Honnêtement. C'était souvent, et je me rappelle d'un match à Westerlo où il est catastrophique, il sort à la mi-temps. Tu vois, c'est... Encore une fois, ça dépend le contexte.
Donc, on a parlé des plus grandes réussites, mais c'est quoi alors la plus grosse erreur si c'est pas Sadiki pour toi?
La plus grosse erreur.
8 sur 10, ça veut dire qu'il y a, il y a encore 20% de marge. Hein.
Tu me mets une colle là.
Ah, ça y est, il est parfait. Il est parfait.
Non.
Ça y est, voilà.
Bah, la plus grosse erreur, t'en as parlé pour moi, c'est Lucas Tassin qui a ce profil, cet ADN mauve. Je connais le papa, qui avait cette envie, comme Léonie l'avait, d'arriver en équipe A et de jouer. Pour moi, je pense que l'année passée, il aurait dû avoir beaucoup plus de temps de jeu et on aurait dû miser un petit peu plus sur lui.
Ouais, effectivement. Moi, je rajouterais que c'est un garçon qui, encore une fois, corrobore avec l'identité d'Anderlecht. Et l'identité d'Anderlecht, quoi qu'on en dise, ça reste un club qui est fort dans les cuissons, dans les valeurs, dans la tradition. C'est certainement le club qui a la plus forte tradition en Belgique.
Oui, et on a cette chance d'avoir ce vivier qui est NRP et d'avoir... ce mindset, cette mentalité, tous les jeunes Anderlecht ont envie de percer Anderlecht. Léonie est le meilleur exemple, Stassin était un bon exemple, Strootkens est un bon exemple, donc on a cette chance, il faut s'appuyer sur cette chance-là pour
moi. Ouais, et quel talent, parce que c'est j'ai encore vu les vidéos des 2009, les petits
incroyable.
14, waouh, qu'est-ce que c'est fort au Sporting.
C'est incroyable, ouais.
C'est certainement la meilleure académie de Belgique,
on peut le dire. Oui,
allez,
c'est un fait certain.
C'est assez clair, hein, quand on voit les talents, grosse diversité de joueurs aussi dans les profils, très très différents, tu peux avoir des numéros 9 très rapides, des joueurs un peu plus petits, plus vivaces, des défenseurs centraux un peu plus techniques, des joueurs un peu à la Théo Léonie également, dans le milieu de terrain, c'est génial parce qu'il y a un gros pluralisme de talents très différent au Sporting, des choses qu'il n'y a peut-être pas dans d'autres académies, tu vois, au niveau du type de joueur.
C'est clair. Mais j'ai remarqué quand même une évolution à ce niveau-là, c'est qu'avant, Anderlecht, c'était très stéréotypé. Tous les équipes d'âge avaient un profil, un style de jeu, une identité, etc. J'ai l'impression que ça, c'est en train un peu de se perdre et qu'on met un peu plus l'accent sur la qualité individuelle les dernières années au centre de formation.
Ouais. Bah, ils en ont peut-être pâti aussi quand on voit la réussite d'Aurel Mangala. Et puis l'après aussi, hein, on peut le dire, à l'Académie d'Anderlecht, il faut passer après Jean Kindermans. Il faut faire l'après, tu vois. Et il y a, je pense, en la personne d'Henk Marimann, un individu capable vraiment d'assimiler c'est quoi les valeurs d'Anderlecht, et puis en même temps, d'aller rechercher, pourquoi pas avec notamment ce travail de scouting, je pense qu'il est à sa place parfaite pour moi, notre ami Peter Verbeek, pour aller chercher les petites pépites, et puis redorer ou encore augmenter la densité de talent et le côté exigence. Parce qu'aujourd'hui, Anderlecht, l'élite, on sait tous qu'Anderlecht, c'est l'élite. Maintenant, il faut différents talents qui ont encore, je dirais, un niveau supérieur pour être encore plus fort. Aujourd'hui, en Belgique, on a un gros problème, c'est que quand on regarde dans les latéraux gauches potentiellement sélectionnables, on n'en a que 14 dans le monde.
C'est incroyable.
14. Et Anderlecht, je pense que va participer, justement, quand je parle de pluralisme, à la polyvalence des talents qui vont justement permettre à la Belgique de se rayonner. Pour moi, il faut... Anderlecht est un étendard, tu comprends, Mehdi? Pour moi, Anderlecht, c'est vraiment, il faut partir d'Anderlecht pour que les autres s'inspirent, tu vois. C'est vraiment la base pour moi dans le centre de formation. Le jeu, la façon de jouer au football, etc., ça doit vraiment être, le doigt qui regarde la lune et pas le doigt, si tu vois ce que je veux dire, tu vois. C'est ça. Mais Anderlecht doit s'inspirer. Ça doit être c'est le plus grand club de Belgique et il doit donner le lead. Et c'est pour ça que parfois je suis un peu dur avec Anderlecht parce que parfois j'ai l'impression qu'ils sont un peu gentillets. Tu vois, que c'est un peu ouais, on est bien, on est content comme ça, etc. Non, t'es le Sporting d'Anderlecht, tu dois être au top. Tu
ça, me comprends ouais, mentalité. Non, je comprends, c'est vrai. Et au niveau de l'équipe première, il y a eu cette mentalité des dernières années qui est tout à fait à l'opposé de ce que les supporters pensent. Et donc nous, malgré les mauvaises saisons, on a à un moment donné, on a fait 6 matchs nuls contre Bruges. Et tout le monde était content d'affilier. On dit non, Anderlecht, c'est pas ça. Anderlecht doit jouer le titre chaque année. Il faut s'affirmer, dire que tu es Anderlecht, tu dois jouer toujours pour les prix, voilà.
Alors, une chose pour Anderlecht qui est vraiment incroyable, et après on va passer bien sûr sur les autres équipes, et clôturer donc cette spéciale Anderlecht. Écoutez, pour moi, il y a un club qui est incroyable pour la réussite des jeunes extra-communautaires, c'est vraiment le Sporting. Quand on voit la façon dont, par exemple, ils ont pris le temps avec un Nilson Angulo qui commence vraiment à s'installer dans l'effectif, et la manière dont, par exemple, un Luis Vázquez s'est très rapidement mis dans le moule malgré la gestion, bien sûr, de Brian Riemer qui est contestable. Mmh. Est-ce qu'on peut dire qu'Anderlecht a un secret, Mehdi ?
C'est difficile à dire, ça. Actuellement, je pourrais pas dire qu'il y a un secret. À l'époque, oui, parce qu'il y avait une grosse communauté, notamment sud-américaine. Je pense qu'il y a, au club, il y a un suivi qui est mis en place par rapport à ces joueurs-là, avec un accompagnement dans la vie privée, etc., où on les accompagne dans la ville, on leur montre, voilà, là, il y a une communauté argentine, ou là, blablabla. Donc, je pense qu'il y a un suivi qui est fait, et pas que pour cette communauté sud-américaine, extra-sportif, qui fait que ces joueurs-là sont mis dans des bonnes conditions.
Est-ce que c'est les réussites des je dirais, des joueurs précédents qui vont entraîner, justement, et permettre un enchaînement de réussite à présent avec les joueurs qui arrivent ? Est-ce que c'est peut-être se baser sur le passé glorifiant qui font qu'il y a des joueurs qui sont beaucoup plus concernés quand ils arrivent au Sporting plutôt que quand ils arrivent dans d'autres clubs comme le KRC Genk, etc. Quoique, c'est un très bel exemple, le KRC Genk, parce que c'est
aussi,
une équipe voilà, qui a de très bons joueurs aussi sud-américains, mais, et qui arrive d'ailleurs à très bien les faire s'adapter également, qui a aussi une clé pour ça. Mais oui, est-ce que c'est l'histoire du Sporting qui aide justement à cette adaptation aussi ?
L'historique, ça aide, bien évidemment, quand on prend des Luis Vázquez, par exemple, où leurs idoles sont Matías Suárez ou Nicolas Frutos, qui est encore très influent dans le football belge. C'est évidemment que ça aide. Ces gens-là ont été formés avec des idoles qui ont eu un vécu Anderlecht. Évidemment que ça a une importance. Oui.
Allez, les moments forts de la semaine. À présent, bien sûr, après sa victoire contre la Gantoise, le Standard a quasiment assuré son maintien à Sclessin. C'était samedi soir. Effectivement, Ivan Lecco a-t-il enfin trouvé la formule, mon cher Xavier ?
C'est compliqué à dire s'il a vraiment trouvé la formule. En tout cas, si ça lui a bien réussi. Et puis, en fait, ce qui est bien pour le Standard, c'est que je suis content dans le sens où, pour une fois, tous les faits de match ont tourné dans leur sens. Et depuis le début de saison, je trouvais que souvent, ils étaient un petit peu malchanceux. Genre, ils ont pris combien de goals ? Ils perdent 0-1 avec un goal de 30 mètres, des trucs improbables. Ici, ben, les faits de jeu ont fait que ça a tourné un peu plus dans leur sens. Et c'est vrai qu'en alignant plus ou moins les mêmes, ça commence tout doucement à créer une osmose et à une équipe. Mais on ne peut pas dire à l'heure actuelle qu'il a déjà trouvé son 11, quoi, toi.
Quentin, back to the roots. Deux attaquants, un rapide, un grand chef. Et puis finalement, c'est comme ça qu'on gagne. Hein.
Je le prône depuis le début de saison. Tu t'appelles le Standard de Liège à domicile. Tu dois jouer avec deux attaquants. Il joue avec deux attaquants. J'étais aussi au match Union Standard. J'étais au match ici Standard Lagantoise. Et c'est quand même vachement mieux de voir une équipe comme ça jouer avec deux attaquants. Il n'y a rien à faire. Quand tu sais le passif du Standard et les bonnes époques, les moments glorieux qu'ils ont connus avec deux attaquants, tu dois jouer avec deux attaquants. Surtout quand tu as un des meilleurs publics de Belgique, le meilleur public de Belgique, avec une telle pression, une telle ambiance et tout, tu dois jouer à la maison avec autant de supporters comme ça, dans une telle ambiance, avec deux attaquants. Tu dois montrer que c'est toi qui fais le jeu, que tu sais créer des occasions, tu sais apporter cet aspect offensif que tu n'avais pas avant. Donc ouais, pour moi, c'est comme ça que tu as trouvé. Et je pense qu'ici, le fait d'être assuré, d'être en play-off 2, avec un gars comme Lecco, il va pouvoir en play-off 2 travailler la saison prochaine. Et là, ouais, ça pourrait être intéressant pour lui.
Et je pense aussi que, notamment, le milieu de terrain, le trident, là, c'est bon, il est trouvé. Je pense qu'O'Neill, il est clairement à sa place de titulaire. Alzate et Kawabe sont véritablement dans leur cœur. Juste, j'ai encore une interrogation sur cette fameuse défense à 3. Pour moi, c'est pas le Standard, c'est une défense à 4. Ça doit repartir à 4 alignés. Quentin n'est pas d'accord.
Non, je pense qu'il va garder son 3-5-2. Je pense que le 3-5-2 est vraiment, même dans les clubs précédents où il était, c'est quelque chose que Lecco aime vraiment bien, le 3-5-2.
Et je sais pas si Doumbia est capable de le faire sur le côté. Je pense que Doumbia est très fort et est très bon et il mériterait d'être titulaire.
Ah ouais, mais là, t'as Dzeneppo sur le côté gauche. Je crois que Doumbia...
Panzo, je suis pas convaincu, je te le dis directement.
Ah, mais oui, mais ça, je pense qu'il y a personne qui est convaincu. Voilà. Là, on a tous vu, il a pas fallu longtemps. Je pense que Panzo, non, mais quand tu vas retrouver des Ngoy, des Nubi, et tout, après il faudra réussir à trouver cet élément central. Tu mets un Ngoy à droite, un Nubi à gauche ou inversement, parce que Nubi aime pas trop jouer sur le côté gauche. Mais je pense que c'est des défenseurs qui sont très jeunes, très rapides, donc des défenseurs rapides, c'est ce qu'il faut dans une défense à 3. Et je pense que ouais, pour moi le 3-5-2 c'est un dispositif vers lequel il va pouvoir se diriger et pouvoir faire quelque chose de bien, je pense.
Alors le Standard qui devrait logiquement aligner une défense centrale avec Nathan Ngoy, Lucas Nubi et Kostas Laifis dans le trio pour les Europe Playoffs. En tout cas, c'est, mm-hmm. c'est l'idée, parce que l'objectif, et c'est une information que j'ai donnée, c'est de prolonger d'une année supplémentaire Kostas Laifis pour permettre justement d'avoir un véritable taulier et aider notamment des joueurs comme Nathan Ngoy et Luka Nubi à encore se développer. Bon, je pense que Kostas Laifis lui attend encore un petit peu avant de véritablement accepter ou s'accorder avec le Standard, parce qu'il attend une offre en Arabie Saoudite. Pour le moment, il n'en a pas une. Mais effectivement, le Standard va se permettre, grâce à cette victoire, de souffler un petit peu et de travailler, je dirais, avec un peu plus de quiétude et moins dans l'urgence. Quelque part, on avait dit souvent, ah tiens, les Europe Playoffs, ça va servir à rien au Standard, on va être là, on va s'ennuyer. Ben moi, je pense que là, ça va être intéressant, parce que ça va leur permettre justement de construire un effectif qui va être, je dirais, de prime abord, ou en tout cas d'intérêt, pour déjà être prêt la saison prochaine à la J1. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, clairement, parce que ça leur fait 10 matchs où ils vont pouvoir préparer la saison prochaine. Je ne veux pas dire 10 matchs qui comptent pour du beurre, parce que s'ils font des bons résultats, on ne sait jamais. Mais c'est 10 matchs avec un enjeu sans trop avoir d'enjeu, où tu vas pouvoir travailler les automatismes et tout ça pour vraiment essayer de préparer la saison prochaine. Que quand, si tu commences à préparer dès le début de la saison prochaine, tu as peut-être 5-10 matchs où tu vas peut-être perdre des points parce que le temps que tout se mette en place, alors que si tu peux les préparer en amont, donc ça que c'est intéressant.
Mais dis, j'ai souvent entendu, en tout cas j'ai lu dans les réactions, notamment sur les réseaux et sur X, on dit oui, si le Standard n'était pas à 11 contre 10, peut-être que ça n'aurait pas été la même chose. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment, dans cette rencontre-là, une différence qui s'est faite par la supériorité numérique, ou c'est Gant qui a complètement lâché?
Pour moi, Gant a complètement lâché. Enfin, c'est difficile à dire, parce que le Standard à domicile, c'est toujours compliqué. Il y a ce supplément aux dames qui vient des tribunes, qui permet aux joueurs de se transcender le temps de 90 minutes. Donc ça, et certainement contre les gros clubs. Ça, le Standard, on l'a vu cette saison, que contre les gros clubs, généralement, ils répondent quand même présents.
Ouais.
Maintenant, la désorganisation de Gant, c'était incroyable. C'était incroyable. Je peux pas comprendre comment une équipe du top 5-6 comme ça...
Ça ne ressemble plus du tout à ce qu'on avait en
saison. Ce qu'ils ont proposé contre le Standard, allez, il y avait des trous, c'était incroyable. Les milieux du Standard se sont régalés à mettre des passes vers l'avant. C'était cadeau quand même. Hein. Donc,
ouais.
De là à dire que l'exclusion a joué, certainement... Mais c'est des organisations, ça ne doit pas être permis au niveau professionnel pour moi.
Ben voilà, je l'ai dit sur Twitter, je vais encore leur dire ici dans cette émission comment on fait pour détruire comme ça à cause d'un mercato d'hiver où on se remplit les poches. Merci monsieur Michel Louagie encore une fois. Comment est-ce qu'on fait pour détruire une équipe qui devait jouer le titre, qui avait tout pour jouer le titre en début de saison? On a envoyé Valdaguer, on a pris la table, on l'a renversée, on l'a mise par terre.
Ouais, c'est affligeant. Hein. C'est affligeant de voir à quel point elle sombre, cette équipe, éliminée en Conference League par Maccabi Haïfa. Les prestations en Belgique, honnêtement, je ne pense pas qu'ils vont être dans le play-off.
Hein. Non, je suis d'accord.
Pour moi, ils vont descendre en Europe play-off. Hein.
Ils le méritent même.
Clairement, ils ne méritent pas. Ouais, c'est affligeant de voir tout ça, de voir comment tu perds tes stars, de voir même les joueurs. Tu as même l'impression qu'ils ont lâché. Là, même ceux qui jouent encore, eux, ils sont démobilisés de voir que leurs potes, leurs collègues, et surtout, qui étaient bons, les éléments forts, sont tous partis. Donc, la gestion du club, c'est catastrophique. Et j'ai bien peur pour eux, pour leur fin de saison. Ça va être cata, quoi.
Ouais, et Anne Van Azebroek aurait acheté une maison du côté de Knok. Trois petits points.
Voilà. Même Anne Van Azebroek, il est en train de péter les plombs complètement. Hein.
Ouais.
Et ça se voit dans son attitude.
C'est
de pire en pire.
Fois,
c'est de
lunaire.
Pire en pire. Il fait limite mal au cœur, hein.
Ouais.
Honnêtement.
Ouais.
Il est dépassé, le garçon.
Alors, on sent qu'il est complètement plus du tout dans le projet, ou alors, je pense, perdu. Et déjà dans l'après, tu vois. Quand quelqu'un n'est plus dans le moment présent, tu le ressens.
Oui.
Là, c'est le cas, en fait, Quentin.
Ouais, c'est vraiment ça. C'est tout le temps. On l'a connu. Il a toujours été comme ça, un peu râleur et tout, à rouspéter et tout. Mais là, j'ai l'impression que même, je vois sur les réseaux sociaux, les groupes de supporters de la Gantoise, tout demandent qu'il arrête d'être comme ça parce qu'ils n'en peuvent plus de le voir non-stop à rouspéter, à râler, à trouver des excuses. Et ça donne pas une bonne image, quoi.
Ouais.
Ton coach est l'image que tu donnes à tes joueurs. Et donc, les joueurs, clairement, ils vont jouer comme leur coach leur dit de faire.
Ouais.
Et je me trompe peut-être, mais il n'a pas fait de déclaration incendiaire dans la presse par rapport à cette situation sportive.
Non.
Alors que c'est sa marque de fabrique.
Parce qu'il est complice. Je te le dis.
Ouais, voilà.
C'est vrai qu'il a approuvé les transferts et tout ça. Enfin,
parce qu'à Anderlecht, c'était le premier à ruer dans les brancards quand il y avait un problème au mercato, etc. Ici, il s'est tué et ça m'a marqué. Moi, je me dis, allez, c'est pas le Van Azebroek qu'on connaît.
Je trouve qu'ils sont quand même, pas pour le défendre, mais je trouve que Gant manque un peu de réussite aussi, toi. Dans le sens où, je crois que c'est contre Anderlecht, on annule leur goal, le goal de Dessart. Mm-hmm. Je suis pas sûr qu'on puisse l'annuler. Ouais, ils prennent un point contre Anderlecht, ça fait déjà un petit peu différent. Ici, contre le Standard, Il y a la rouge qui est méritée, je ne dis pas, mais ça a fait le match. Le penalty, c'est un peu un penalty qui tombe de nulle part, mm-hmm. même si au final le Standard a bien joué ses 5-10 dernières minutes de la première mi-temps. Mais à la mi-temps, si c'est 0-3 pour Gand, c'est la même chose. Mitrovic, il reprend le ballon au petit rectangle, ça va sur le dos de Brown. Pour le même prix, c'est 2-0. Tu vois, donc c'est plein de petits faits de match qui font que ça ne tourne pas en leur faveur.
Ouais, c'est vrai,
et ils ne jouent pas très bien, mais avec des petits faits de match un peu plus qui penchent d'un côté ou de l'autre, ils auraient des points en plus et ça peut peut-être faire la différence. C'est pas dans la même situation que maintenant.
Alors, pour revenir brièvement sur le match, là où je suis d'accord avec toi, c'est que si le Standard n'égalise pas avant cette fameuse, tu sais, c'est ce temps additionnel qui n'en finit plus à Sclessin après la première, enfin, en première période, si Kanga ne marque pas ce penalty, effectivement, je pense que le match est totalement différent. Je suis totalement d'accord avec toi, Xavier. Non, c'est aussi une des choses qui font que.
Mais après, pour une fois, ça peut tomber du côté du
l'analyse
Standard.
L'analyse est autrement.
Depuis le début de la saison, chaque fois, le Standard, ils se font avoir par des bêtises. Comme je l'ai dit, premier match de la saison, là, Koïta qui m'a tiré de 30 mètres. Mm-hmm. Enfin, toi, c'est le truc.
C'est sa marque de fabrique. Okay.
Ouais, mais bon, c'est quand même des trucs, toi.
Ouais, c'est ça.
Beaucoup de réussite, on va dire ça. Au match retour contre Satron, Fujita, il fait aussi une frappe de fou. Contre Westerlo, il y a deux semaines aussi. Enfin,
ouais,
t'as plein de fins de match que chaque fois, ça tombe pas pour le Standard. Bah, pour une fois, ça peut tourner en faveur du Standard, quoi.
Voilà. Comme quoi, les résultats en Jupiler Pro League, c'est aussi une question de réussite. Ronny Deyla vers une fin de saison. Messieurs, bye bye du côté du club de Bruges. Forcément, il faut poser la question des entraîneurs. Maintenant, c'est devenu important. Alfred Schroeder, Karl Hufkens, Scott Parker, Rick Demil, Ronny Deyla, quel est le problème du club avec les entraîneurs?
C'est compliqué. Hein. Est-ce que c'est lié avec la direction? Est-ce que c'est lié avec les joueurs? Franchement, on n'est pas dans le vestiaire, donc on ne sait pas vraiment dire ce qui se passe. Mais il y a clairement un gros problème. Ils n'arrivent plus à trouver cette stabilité. Parce que le club de Bruges est un grand club, a les meilleures finances du championnat, a gagné plein d'argent avec la Ligue des Champions, a vendu des joueurs à des sommes astronomiques, va encore en vendre cet été à des sommes astronomiques, pardon. Mais ils doivent trouver cette stabilité, ce coach, mais je trouve qu'ils doivent trouver ce coach qui a l'identité du club. Et c'est ce qu'ils n'ont pas vraiment. Ici, le coup d'œil là était un mauvais coup.
Mehdi,
ils avaient essayé avec Karl Hufkens. Hein. Je pense que plus l'identité du club que Karl Hufkens.
Ils ont essayé, mais il y avait un compliqué. Truc qui n'allait pas.
Moi, je pense qu'il y a un problème d'ADN dans ce noyau et dans cet effectif. On parlait d'Anderlecht. Je pense qu'à Bruges, il y a possibilité, à part les défenseurs centraux, d'avoir des joueurs un peu plus impliqués et concernés par le club. J'ai l'impression que je prends tous les joueurs offensifs. À Bruges, à part Van Aken, qu'il n'y a personne qui est concerné vraiment par le club.
Ouais, et Van Aken, il est peut-être aussi en manque de fraîcheur au niveau de sa carrière et de son statut à Bruges. Ça ne l'empêche peut-être d'avoir qu'on parlait justement la semaine dernière, une fameuse double accélération. Oui. Bon, Lyon l'a eu, hein, la double accélération. Finalement, ils sont qualifiés pour la finale de la Coupe de Belgique. Mais c'est ça. Est-ce qu'il faut avoir encore des joueurs qui sont prolongés à des sommes incroyables? Deuxième plus gros salaire du club de Bruges pour Hans Van Aken, avec quasiment 4,4 millions d'euros par an brut. Enfin, c'est énorme, quoi. Et du coup, on s'installe dans un matelas, on est dans son confort et on n'a pas envie de se faire mal. C'est peut-être ça, Mehdi.
C'est peut-être ça, ouais. Mais malgré tout, je pense que Van Aken, c'est encore un des seuls où tu ne peux pas vraiment tirer dessus parce qu'il a encore ce mindset et cette envie. Là où j'ai un petit problème, moi, c'est avec notamment des Noussa, des Thiago, qui finalement viennent une saison, qui prennent Bruges comme un tremplin. Et ils ont peut-être raison de le faire, mais c'est ça qui manque un peu à ce club pour recommencer à performer et à être la machine qu'ils étaient auparavant.
Mais est-ce qu'il n'y a pas trop de pression sur les entraîneurs au club de Bruges? Est-ce que les dirigeants du club de Bruges ne mettent pas trop de pression, Xavier?
Je pense que si, quand tu t'appelles Bruges, Anderlecht, Anderlecht ou quoi, t'es obligé de mettre une pression sur ton entraîneur. T'es obligé, on va dire, d'être champion, vice-champion toutes les années. Après, t'as d'autres équipes qui travaillent bien aussi et tu peux pas être champion non plus. D'ailleurs, t'as parlé d'Alfred Schroeder, mais je crois qu'il est parti en tant que champion de Bruges.
Il est parti, ouais.
Donc bon, il a quand même fait du bon boulot.
C'était la dernière période un peu shining de Bruges, c'est effectivement. C'est pour ça que je l'ai cité d'ailleurs, parce qu'il faut être toujours contrasté dans la vie.
Qui serait, selon vous, actuellement, l'entraîneur idéal pour ce club de Bruges-là?
Moi, je pense qu'il n'y en a pas, parce que le problème, il est structurel. Il y a des problèmes internes au club de Bruges dans leur organisation qui fait en sorte que c'est impossible, en fait, d'avancer dans cette équipe et avancer avec, justement, cette structure-là. On est dans un espèce d'entre-deux où on a envie de faire quelque chose, mais en même temps, on n'a pas envie de vexer certains égos. Mm-hmm. Donc, on n'avance pas totalement sur le projet. Et puis, en même temps, il y a un peu comme au Bayern Munich, une espèce de groupuscule qui domine le vestiaire, tu vois. Il y a un problème un peu structurel et en même temps d'ego, en fait, au club de Bruges. Je pense que c'est ça qui fait qu'ils n'avancent pas.
Exactement. J'ai l'impression que tu perds cet aspect du collectif. T'as l'impression qu'ils sont pas tous à jouer ensemble. Il y a beaucoup trop d'individualité. Et là où la différence avec Anderlecht, c'est qu'Anderlecht, les individualités performent. Ici, à Bruges, tu as des individualités, mais elles n'arrivent pas à performer. Donc, ouais, il y a ce gros problème, comme tu dis, d'ego, il y a ce manque de collectif.
Moi, je peux donner une info parce que j'en avais parlé avec Karl Lufkens à l'époque où il était encore entraîneur du Standard. Et Karl Lufkens me disait, c'est très froid. Il n'y a pas, en fait, voilà. Si tu veux, de communication entre la direction et le coaching. En fait, il y a des passages, entre guillemets, de oui, on communique, mais de manière très informelle, par mail ou alors à coup de réunion, etc. Mais tu ne sens pas un vrai lien entre la direction d'une part et le coaching de l'autre. C'est peut-être ça le problème. Il faut peut-être rapprocher les deux ponts pour créer une entité, c'est ça.
Ronnie Dalla était dans ce sens hein, récemment, dans ses déclarations. Quand on lui pose la question, est-ce que vous avez des contacts? Il dit, j'ai aucun contact avec la direction.
Voilà.
Donc c'est le meilleur exemple.
Je confirme.
Et là, on revient à Fred Berck. Finalement, ce lien, par rapport à Anderlecht, c'est Jesper Fred Berck. Ouais. Est-ce qu'il ne manque pas un Jesper Fred Berck à Bruges?
Je pense effectivement. Mais il y en avait un, il s'appelait Vincent Manhart. Mais Vincent Manhart est rongé par des problèmes extrasportifs que nous n'évoquerons pas dans cette émission, qui font qu'aujourd'hui, il n'est plus apte à engranger cette pression et à rester le grand dirigeant qu'il est. Parce que Vincent Manhart, il a fait des coups absolument exceptionnels. On rappelle, plus de 200 millions d'euros de bénéfices, depuis qu'il est arrivé à Bruges, à 250 millions, un peu plus de 250 millions. 256,3 millions, pour être exact. Donc, vous imaginez un peu à quel point c'est un grand vendeur, quoi. Et voilà.
Je sais pas si c'est, enfin, il se murmure aussi que Bart Verhaeghe cherchera à vendre le club.
Oui, je pense qu'il est ouvert.
Il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là aussi.
Effectivement. Il y a une possibilité également avec notamment le patron de Jarno Boon. Je pense Jarno Boon, le patron de la société Lotus. Ouais, voilà. Qui effectivement souhaiterait en tout cas, je dirais, peut-être ou racheter totalement ou revendre ses parts. Il y a un petit conflit aussi chez Grizzly Sport, qui est la société qui possède en grande majorité le club de Bruges, qui doit être réglé effectivement. Et puis voilà, séparation des parts, etc. Parce que Vincent Manhart était là-dedans. Il y a peut-être aussi tout
qui
met les problèmes sur le terrain.
Il n'y a pas de miracle quand la structure en haut n'est pas saine et stable. Ça en découle sur le sportif.
Et puis dans tous les clubs, quoi que j'arrive, ça fonctionne aussi par cycle. Hein. Juste avant ça, ils ont été champions quoi, 3 fois d'affilée, bêtises. Donc il y a un moment où après ils retombent un petit peu, puis après ils vont revenir au top, comme tous les clubs. Hein. Ouais. Ça fonctionne par quelques saisons, tu es au top, puis tu es un petit peu moins bien.
C'est quand même un grand paradoxe, hein, c'est le club qui vend chaque année, qui financièrement c'est incroyable. Et quand on voit la situation sportive, c'est quand même pas normal.
C'est pas normal du tout, effectivement. Et pour essayer de régler le problème, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un petit élément au Mikado et on met Hugo Broos, pourquoi pas, en tout cas, des candidats pour devenir directeur technique très rapidement. Xavier, bonne ou mauvaise idée?
Pour moi, je suis assez neutre à ce niveau-là. C'est vrai qu'il a fait du beau boulot en tant qu'entraîneur dans tous ses clubs.
On te demande pas de la neutralité ici.
J'étais en train de me justifier. Qu'en tant qu'entraîneur, il a fait du bon boulot, mais ici, en tant que directeur, c'est plus quoi.
Yes.
Je suis pas convaincu encore.
T'es pas convaincu par la possibilité de le voir directeur technique à Bruges et je dirais de mettre en avant ce qu'il est capable de faire en termes de réseau, etc. Il apporte pas une plus-value, quoi. C'est ça.
Après, il fera peut-être du très très bon boulot, hein, j'espère, pour lui, mais à l'heure actuelle, je suis pas convaincu, quoi.
Quentin?
Ouais, c'est quelqu'un qui connaît le championnat belge, c'est quelqu'un qui connaît comment fonctionne le club de Bruges et les autres clubs et tout. Donc ça peut être intéressant. Il faut du changement, ça c'est sûr, dans la structure du club de Bruges. Donc pourquoi pas?
Mehdi ?
Mauvaise idée, il faut innover, il faut un petit peu aller vers le futur et il faut prendre du sang neuf, je puis dire.
C'est très bien, on va te laisser le mot de la fin là-dessus, c'est magnifique. Mehdi, place maintenant à notre séquence, le crack, la fraude, effectivement, place une séquence découverte où vous allez peut-être découvrir des talents, où vous allez peut-être entendre des gens taper sur d'autres gens. Voilà, c'est aussi l'autre versant du crack, la fraude. Xavier, t'as opté pour quoi?
Moi, un joueur dont t'as parlé un petit peu précédemment, moi j'ai envie de mettre en avant Kostas Laifis cette semaine, c'est vrai que tout le monde le connaît, mais de manière générale, on l'a souvent critiqué, on a souvent tapé sur lui, il a peut-être eu des mauvaises attitudes en avant-saison ou autre. Mais au final, on a eu besoin de lui, il répond présent. Pour moi, c'est l'un des meilleurs Sandarmen depuis quelques matchs. Et heureusement qu'il est là, qu'il fait de l'excellent boulot. Mine de rien, c'est un joueur, il ne fait jamais de déclaration devant la presse, on ne l'entend pas. Mais sur le terrain, il répond présent et il est très important pour le Standard.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi, effectivement, on rappelle l'information. Standard aimerait le prolonger d'une saison. Les discussions ont déjà eu lieu, on verra bien, évidemment, il n'y a pas encore d'accord en ce moment.
C'est quand même bizarre, hein. Un peu la culture de l'instant, je trouve. C'est quand même quelqu'un qui, ici, au Mercato de janvier, a quand même bien chié un peu sur le blason et sur le club. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment un bon signal. positif. Ok, il a fait des bonnes performances, tant mieux à lui. Il ne faut pas oublier qu'il joue aussi parce qu'il veut un salaire, il veut un contrat dans un autre club. Mm-hmm. Donc, ça, tout, c'est à son honneur de bien jouer pour se montrer, pour aller chercher un autre contrat parce qu'il sait qu'il va être libre et donc sans employeur au mois de juin. Donc, je ne pense pas que ce soit la bonne idée de le prolonger.
D'accord. Ton crack, ta fraude.
Mon crack, j'ai choisi un entraîneur belge. Je ne sais pas si vous avez une idée.
Non.
Un entraîneur belge à l'étranger.
À l'étranger.
Ouais.
Oui,
Karel Gerhardt.
Ah, Karel Gerhardt.
Karel Gerhardt, Schalke 04, qui est en mission pour essayer de maintenir le club et qui, ce week-end, vient de gagner contre le leader, Saint-Pauli, qui a vraiment bien mis pour monter en Bundesliga. Donc, vraiment un très, très bon résultat. Et donc, je trouve aussi souligner le travail de Karel Gerhardt avec Schalke. Vraiment du bon boulot. Victoire 3-1 contre le leader.
Voilà. Et ça travaille en main dans la main avec un certain Marc Wilmots, directeur sportif du club de Schalke. C'est pas mal. C'est aussi c'est intéressant. Belge. Jeune entraîneur, effectivement, une mentalité un peu similaire avec un football un peu similaire qui était celui qu'il prônait quand il était à l'Union Saint-Gilloise. Voilà, c'est bien. C'est jeune. Il faut des entraîneurs de plus en plus pour mettre en avant la patte. C'est important, la patte des entraîneurs et montrer aussi au monde les idées des entraîneurs belges. Parce que ça passera par la culture et c'est comme ça que notre football va s'élever. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
J'ai eu beaucoup de bons échos par rapport à Karel Gerhardt, c'est un joueur de l'Union que je connais,
ouais.
qui était vraiment pas dithyrambique, mais pas loin sur
t'es
ça.
T'es un espion en fait, t'es supporter de l'Union.
Non. À Bruxelles, c'est petit, ouais, tout le monde se connaît. Donc beaucoup de bons retours sur Karel Gerhardt.
D'accord. Ton crack ou ta fraude?
Un crack, le mot crack parce que c'est pas vraiment un jeune, mais Rob Skous du KV Mechelen,
okay.
Joueur très très important qui de semaine en semaine, mais pas de moi. Allez, je le connaissais déjà, il a 29 ans, c'est pas un jeune talent, ouais. Mais la bonne forme du KV Mechelen, il la doit en grande partie à Rob Schoofs, qui est au four et au moulin, si je peux dire. Franchement, c'est incroyable. Le garçon, encore ce week-end au cercle, ouais. Il fait un match énorme. Mm-hmm. Et je trouve que c'est ce genre de joueur qui est un petit peu sous-estimé dans notre championnat et qui mériterait d'aller dans un club du top 5.
100% d'accord.
Ouais, voilà, un joueur qui frappe de loin comme peu, en tout cas dans le championnat de Belgique. Il a une frappe absolument
incroyable.
Fantastique.
Hein. C'est 6 goals, 5 passes décisives cette saison.
Ouais.
Il a une carrière assez spéciale. Hein. Donc, il a démarré à Saint-Trond. Gand l'a acheté, c'était le plus gros transfert à l'époque de Gand. Finalement, il n'a pas trop performé à Gand. Et maintenant, ça fait quelques années qu'il est à Malines, dans l'ombre un petit peu.
Mm-hmm.
Mais qui marque facilement 5-6 goals par saison et des beaux goals. Et ouais, voilà.
Sacré joueur, sacré effectivement. Joueur. Allez, on va passer maintenant à mon crack et ma fraude. Bah oui, forcément, il faut que je le fasse aussi. C'est normal, tout le monde doit le faire. Le crack, très simplement, Conny De Winter. Personne ne regarde la Serie A en Belgique, c'est bien dommage parce qu'à un moment donné, il est absolument incroyable. C'est fantastique, il fait encore un match merveilleux. Bon, l'Inter est évidemment la meilleure équipe du monde en ce moment, donc pas du tout objectif. Hein. Donc forcément, il a perdu, en tout cas son équipe a perdu lundi dernier face au Nerazzurri. Mais par contre, quelle performance il enchaîne du côté de la Serie A avec la Genoa. Il est actuellement, je pense, le deuxième meilleur défenseur belge du Top 5 League. Hein. Donc il faut bien se rendre compte de ça. Pourquoi? Parce que Vertonghen ne joue pas dans une top 5 league et parce que Watfast joue au championship. Donc voilà, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. C'est très fort, Conny De Winter, vraiment. Dominic Tedesco est déjà allé le voir deux fois. Il a cette capacité à jouer à la fois latéral droit, mais également défenseur central. C'est important parce qu'on cherche un backup à Timothy Castagne pour l'Euro et que ça pourrait être une solution. Voilà, je trouve que c'est un joueur merveilleux. Si vous n'avez pas vu, regardez un peu les highlights de Conny De Winter. C'est vraiment un joueur absolument fantastique. Et surtout, je pense qu'il peut être intéressant, justement, je le disais, dans la polyvalence. Et regardez la Serie A, je vous en supplie. Que ce soit les directeurs sportifs nationaux, parce que c'est Franck Ivercoteren qui bloque. Hein, pour le moment, je peux vous le dire. Domenico Tedesco aime beaucoup, mais ils doivent faire les choix à deux, comme toujours, lors des sélections des Diables Rouges. Et pour le moment, ça pose un petit souci. Domenico Tedesco, voilà, essaye de pousser. Je pense qu'il sera très certainement là en mars. Mais voilà, gros talent. Conny De Winter, une solution, Quentin. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Non, c'est vrai, c'est vraiment bien. Parce que surtout qu'on sait que c'est notre problème. Hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans l'émission. Et le secteur défensif de notre équipe nationale a besoin de stabilité, de quelque chose, de talent. A besoin de quelque chose. Parce qu'on sait qu'offensivement, c'est incroyable.
T'as besoin de renouveau.
Exactement. Et je pense que ça doit passer par un Conny De Winter avec des bonnes performances. Donc on l'espère. Et on continue surtout dans un championnat comme ça, avec également un championnat où il peut vraiment apprendre cette tactique et donc s'améliorer. Et donc ça peut être intéressant.
Mehdi.
Ce qui est assez improbable quand même, c'est que finalement, on ne donne pas la chance à ce genre de joueur, mais qu'on laisse et qu'on maintient un Watfast qui joue en deuxième division anglaise et qui n'est pas impérial non plus avec l'équipe nationale.
Ouais, voilà, c'est ça. On se posera aussi des questions sur les liens qu'il peut y avoir parfois sur certaines sélections en équipe nationale. Mais c'est
comme
la
toujours,
même chose partout.
Hein,
voilà.
C'est comme
au milieu du football.
Comme partout.
Ouais, c'est ça.
Juste un petit mot sur la fraude. Pour moi, c'est Massimiliano Allegri. Le comportement qui a été celui de Massimiliano Allegri à l'encontre de Joseph Nanguet, jeune belge, né en 2005, formé au Sporting d'Anderlecht d'ailleurs, de 18 ans. C'est un scandale absolu. Si vous n'étiez pas là, vous n'aviez pas vu les images, on vous les raconte très simplement. 76e minute de jeu, 76e si vous êtes français, il entre, Joseph Nanguet, sur le terrain. Il fait d'abord, je dirais, une très belle entrée. Il participe au but, notamment de Chiesa. Et puis ensuite, effectivement, il y a une petite faute dans la surface de réparation. Cette faute, évidemment, comme on dit, c'est l'effet papillon. Petite cause, grande conséquence. C'est la fameuse chanson de Benabar, mon cher Quentin. Et il cause ce pénalty. Le but est inscrit finalement et Naples va l'emporter sur sa pelouse au Stadio Armando Maradona de Naples face à la Juve. Résultat des courses, ils sont à 15 points. Mais le comportement de Massimiliano Allegri, à cause de cette faute-là, de sortir Joseph Nanguet alors qu'il venait d'entrer en jeu, un gamin de 18 ans qui justement fait une bonne entrée, c'est vraiment un manque de psychologie, un manque d'intelligence, un manque d'intelligence émotionnelle, j'irais même plus loin. Il est complètement à la ramasse et son équipe aussi, quelque part.
Et tous les supporters aussi qui l'insultent et tout sur les réseaux sociaux et tout, ça c'est vraiment, je trouve, honteux. Le joueur a même dû s'excuser, mettre un post sur les réseaux sociaux pour s'excuser, ou même après, et là bien, le français Adrien Rabiot, qui a même commenté, qui lui a mis, mais t'as même pas besoin de t'excuser. C'est le football, c'est comme ça, t'as même pas besoin de faire ce post et de t'excuser. Mais qu'un jeune de 18 ans, on lui met une telle pression, qui reçoit autant d'insultes sur les sociaux. Je crois que les gens derrière leur écran, ils ne comprennent pas l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un. 18 ans, t'as un jeune de ton club, peut-être un futur grand de ton équipe, faire ça, je trouve que c'est pas bien, honnêtement.
Ouais, c'est un scandale, effectivement. Ouais, parfois, je pense que il y a des entraîneurs qui sentent le sapin et Massimiliano Allegri, je pense qu'il n'a pas compris comment on fait pour mettre en avant des jeunes. Il fait aussi des erreurs sur tous les autres jeunes de la Juve. Ils disent la gestion elle est catastrophique. Le petit Miretti, il est très bon pendant 3 matchs et ensuite il le met à la cave. Je veux dire, à un moment donné, je pense qu'il y a des entraîneurs qui ne sont pas faits pour mettre en avant des jeunes ou en tout cas qui n'ont pas la psychologie pour le faire. Voilà.
Ouais, c'est clair. C'est des entraîneurs qui ont toujours gagné avec leur méthode, avec des anciens joueurs et ils retournent finalement dans les fondamentaux et ils n'innovent pas. On en revient à Hugo Broos, à un moment donné, il faut innover. À la Juve, ils doivent aussi innover. Il faut arrêter un petit peu de reprendre toujours des anciens.
Voilà, le talent pour le talent abat les statues. On va terminer comme ça, monsieur. Merci beaucoup d'avoir été là à tous les trois. C'était un bonheur. En tout cas, merci à vous d'avoir été présents. Comme d'habitude, on se retrouve très rapidement dans Wait and See, votre séquence sur les transferts et autres bruits de couloir. Xavier, à la semaine prochaine ou pas? Non. La semaine prochaine, tu n'es pas là.
C'est ça.
Et ce sera Thomas qui te remplace. Ok, ça va être super. Quentin,
à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Et puis Mehdi, à très vite.
Merci
beaucoup d'avoir été présent.
Comme
je le dis souvent, marhaba. C'est pas parce que tu es d'origine marocaine que je le dis, attention. Mais c'est un vrai plaisir. Tu es la bienvenue.
C'est gentil.
Et puis j'espère que tu as passé un bon moment.
Excellent, merci à vous.
Et qu'on a pu aborder toutes les thématiques sur le Sporting d'Anderlecht qu'on voulait. Merci à vous d'avoir été présent dans le Clubhouse. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera Yannick Ferreira, l'ancien entraîneur du Standard de Liège et de Saint-Trond, qui sera à nos côtés. Ciao, ciao.